VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de la capitale américaine, mardi 18 septembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir au Niger, un missionnaire italien a été enlevé à Bamawanga, dans le sud du pays, par des hommes en moto. Les forces syriennes ont abattu un avion de reconnaissance russe, la Russie convoque l'ambassadeur d'Israël. On vous explique pourquoi dans quelques instants. Troisième sommet intercoréen, les dirigeants des deux Corées ont défilé dans les rues de Pyongyang sous les acclamations de la foule. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Niger, un missionnaire italien, Pierre Luigi Macciali, a été enlevé à son presbytère de Bamawanga, dans le sud-ouest du pays, lundi soir, par 8 hommes à moto. Pour l'heure, il n'y a pas de revendication de la part des auteurs de l'enlèvement. On fait le point avec Jacques Aristide.
D'après Thomas Kojovi, chargé de la communication de la mission catholique au Niger, les 8 assaillants ont d'abord cassé la porte du presbytère, située en face de l'église du prêtre, avant de l'extraire et de partir avec lui sur une de leurs motos. Ils se sont ensuite dirigés vers la frontière du Burkina Faso. 10 minutes après, ils sont revenus pour tirer en l'air, manifestement pour intimider les habitants, ajoute le chargé de communication. Il y avait également des sœurs, mais c'est lui seul qu'ils ont enlevé, indique-t-il. Le village de Bamawanga dépend de la paroisse et la préfecture de Makalandi dans la région de Tillaberi. Le prêtre italien vit depuis 11 ans au Niger. La Société des missions africaines souligne être en contact avec la cellule de crise du ministère italien des Affaires étrangères. Le Niger est en proie à des attaques djihadistes récurrentes, notamment dans le sud-ouest proche du Mali. En avril dernier, un humanitaire allemand avait été enlevé dans la même région de Tillaberi, alors qu'un humanitaire américain a été kidnappé plus au nord en octobre 2016.
En Guinée, l'annonce de destitution du président de la Cour constitutionnelle par une partie des membres a provoqué une vague de réactions dans le pays. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée a invité ce mardi les membres de l'institution à plus de sérénité et de responsabilité. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée ont choisi la maison de la presse pour donner leur position sur la crise au sein de la Cour constitutionnelle. Dans une déclaration, le barreau guinéen attaque la démarche des 8 conseillers de l'institution à l'origine de cette crise. Des conseillers qui affirment s'appuyer sur l'article 7 de la loi organique relatif à l'élection du président pour justifier leur décision de le destituer. Pour l'Ordre des avocats, le fait d'avoir élu le président de la Cour constitutionnelle ne leur donne pas le droit de le destituer. La situation fait apparaître qu'ils se sont comportés en juge et non en partie, argumentent les avocats guinéens. Depuis l'annonce de destitution du président de la Cour constitutionnelle, pour, dit-on, gestion opaque, dysfonctionnement de la Cour et bien d'autres griefs, beaucoup de voix se sont fait entendre. Lundi, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a appelé au respect de la Constitution et de tous les textes législatifs et réglementaires. Les conseillers ont désigné Mohamed Lamine Bangoura vice-président de l'institution pour assurer l'intérim. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Guinée équatoriale exige la restitution à Théodorine Obiang-Nguema de plus de 16 millions de dollars en espèces et en bijoux saisis par la douane au Brésil. C'est ce qu'indique la télévision d'État. Et cette fortune a été trouvée dans les bagages d'une délégation accompagnant le fils du président de Guinée équatoriale. La loi brésilienne interdit pourtant l'entrée dans le territoire avec une quantité d'espèces supérieure à 2400 dollars. Procès de Dominique Ongwen à la Cour pénale internationale. L'avocat et de l'ex-rebelle ougandais a présenté son client comme une victime, utilisée comme enfant soldat par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Il doit donc être acquitté de crimes de guerre, estime la défense. Monsieur Ongwen, accusé de crimes contre l'humanité, doit répondre de 70 chefs d'accusation devant la CPI pour des actes présumés commis par la LRA dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Zimbabwe, les députés de l'opposition ont boycotté le premier discours sur l'état de la nation prononcé par le président Emmerson Mnangagwa. Monsieur Mnangagwa a été déclaré élu dès le premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages. Son principal rival, Nelson Chamisa, dénonce depuis des fraudes et des irrégularités. La justice a rejeté son recours en annulation du scrutin, mais il continue de se considérer comme son vainqueur. Lors de son discours devant le Parlement, Emmerson Mnangagwa s'est engagé à prendre des mesures pour encourager des investissements étrangers et assurer la croissance graduelle de tous les secteurs de l'économie. La peste à Madagascar. Les autorités ont recensé depuis août 8 cas suspects, dont 6 guérisons et 2 décès à Fiadanan et dans le district d'Ambalavao. La peste est endémique à Madagascar et réapparaît presque chaque année depuis 1980 pendant la saison des pluies. La maladie avait fait plus de 200 morts l'an dernier. Le Royaume-Uni suspend son aide publique à la Zambie, décision prise en raison des accusations de détournement de fonds et de corruption lancées récemment dans la presse contre le gouvernement du président Edgar Lungu. Afrique du Sud, la justice a légalisé la consommation de marijuana à usage personnel pour les adultes. Ce ne sera plus un délit pour un adulte de consommer ou de posséder du cannabis à titre privé pour sa consommation personnelle à domicile, ont estimé les juges.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée syrienne a abattu, au large de la Syrie, un avion de son allié russe, avec 15 militaires à bord. Moscou fait toutefois porter la responsabilité sur Israël. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'Ilyushin 20 russe a été abattu par erreur selon Moscou par la défense anti-aérienne syrienne. Celle-ci avait ouvert le feu pour intercepter des missiles israéliens visant des dépôts de munitions dans la province de Latakié, bastion du président Bachar al-Assad. Cependant, l'armée russe a dirigé sa colère contre Israël, jugé responsable du drame en raison de ses tirs de missiles sur cette province. Les pilotes israéliens, en se couvrant avec l'avion russe, l'ont placé sous le feu de la défense anti-aérienne syrienne, a déclaré le ministre russe de la Défense. Nous considérons hostiles ces provocations de la part d'Israël et nous nous réservons le droit de répondre de manière adéquate, a-t-il ajouté. Le président Vladimir Poutine a expliqué ce crash par un enchaînement de circonstances accidentelles tragiques. Israël a exprimé sa tristesse après la mort des membres de l'équipage, mais a rejeté la faute sur le régime de Bachar al-Assad et ses alliés. Ces derniers mois, Israël a multiplié les frappes en Syrie contre le régime ou son allié iranien. L'État hébreu a répété qu'il ne permettrait pas à l'Iran de se servir de la Syrie contre lui.
Et c'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'ONU salue l'accord russo-turc d'hier visant à créer une zone démilitarisée dans la province syrienne d'Idleb. Cet accord devrait conduire à éviter une opération militaire de grande échelle dans la région, a ajouté Antonio Guterres, en appelant toutes les parties en Syrie à faire appliquer cet accord et assurer un accès humanitaire sûr et sans entrave dans toutes les zones via les routes les plus directes. Libye, malgré un accord de cessez-le-feu conclu le 4 septembre sous l'égide de l'ONU, les combats entre milices rivales ont repris au sud de la capitale, Tripoli. Les affrontements ont notamment provoqué une coupure générale d'électricité sur l'ouest et le sud du pays, selon la Compagnie nationale d'électricité. Les dirigeants des deux Corées ont défilé aujourd'hui en voiture dans les rues de Pyongyang sous les acclamations de la foule. Lors de leur troisième sommet, le leader sud-coréen devait tenter de débloquer les discussions sur la dénucléarisation entre le Nord et Washington. Les détails avec Nani Talani.
Le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un a accueilli son homologue sud-coréen Moon Jae-in sur le tarmac de l'aéroport international de Pyongyang. Accompagnés de leurs épouses, les deux hommes se sont donné la collade avant d'échanger quelques mots. Munis de bouquets, massés sur les trottoirs au passage du véhicule transportant les deux dirigeants, des milliers de Nord-Coréens chantaient à l'unisson « Réunification du pays », agitant des drapeaux nord-coréens et des emblèmes de l'unification de la péninsule. « Je suis profondément conscient du poids que nous portons. Le monde entier nous regarde et je voudrais offrir au peuple du globe la paix et la prospérité » a déclaré Moon Jae-in, le leader sud-coréen. De son côté, M. Kim a salué son visiteur pour le rôle de facilitateur qu'il avait joué avant la tenue en juin du sommet historique avec Donald Trump. M. Moon retrouvera à nouveau Kim Jong-un demain et tentera de le convaincre de prendre des mesures substantielles envers le désarmement qu'il pourrait présenter à M. Trump en marge de la prochaine Assemblée générale de l'ONU.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La Banque africaine de développement vient d'octroyer plus de 8 milliards de francs CFA au Mali pour la réalisation du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. Cette offre vise, entre autres, à accélérer la croissance, favoriser l'investissement, améliorer le climat des affaires à travers notamment l'exportation de la viande et la création d'unités industrielles de ses produits dérivés. Ce projet financera aussi des programmes liés au développement rural, à l'énergie, à l'eau, à l'assainissement, aux infrastructures routières et à la gouvernance. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement et la société danoise Aldor Topso viennent de signer un projet d'installation d'une usine de fabrication de fertilisants qui sera implantée à Pointe-Noire. Cette usine se servira du gaz naturel pour produire de l'ammoniac destiné aux marchés extérieurs et des engrais pour les marchés locaux et régionaux. Son installation coûtera environ 1 410 milliards de francs CFA. Pour terminer, les représentants des gouvernements de l'Afrique centrale et les experts du développement du monde entier sont au Tchad dans le cadre de la 34e session du Comité intergouvernemental d'experts pour l'Afrique centrale. Ils examinent le déblocage des financements pour l'industrialisation des économies de cette partie de l'Afrique. Cette réunion est aussi censée permettre aux pays tels que le Gabon, le Tchad et le Cameroun de quitter le statut d'exportateur de matières premières pour arriver à une diversification sectorielle et une industrialisation rapide.
Au pas de course, on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La Ligue des Champions reprend ses droits en Europe.
Oui, la victoire convaincante du FC Barcelone, 4-0 contre le PSV Eindhoven, avec un triplé de Lionel Messi, dont le premier but inscrit sur un magnifique coup franc. En deuxième mi-temps, Dembélé a aussi marqué. Samuel Umtiti, le champion du monde français, exclu pour deux cartons jaunes. L'Inter Milan a souffert, mais s'est imposé 2-1 contre Tottenham. Eriksen avait ouvert le score pour les Anglais, puis Icardi et Vecino permettent aux Italiens de l'emporter. Depuis 19h, temps universel, Bruges contre le Borussia Dortmund. Monaco qui a ouvert le score 1-0 face à l'Atlético Madrid, pourtant vainqueur de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe. Autre beau duel ce soir, Liverpool, Paris Saint-Germain. A noté que l'avant-centre brésilien de Liverpool, Roberto Firmino, blessé à l'œil la semaine dernière, il a été remplacé par Sturridge. Naby Keita ne joue pas non plus. L'étoile rouge de Belgrade affronte Naples. Galatasaray qui mène 1-0 face au Lokomotiv Moscou. Enfin, Schalke 04 contre le FC Porto.
Et demain, le triple tenant du titre, le Real Madrid, entre en lice.
Ah oui, le Real orphelin de son stratège Zinedine Zidane ou encore de sa machine à but Cristiano Ronaldo. Eh bien, le Real qui va affronter l'AS Rome demain a noté la petite pique lancée hier par l'attaquant gallois du Real, Gareth Bale, qui estimait que son club jouait plus en équipe depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin. Ronaldo qui se déplace en Espagne chez le FC Valence. Les autres rencontres, Ajax d'Amsterdam, AEK Athènes, Shakhtar Donetsk, Hoffenheim, le Benfica face au Bayern Munich, Manchester City qui accueille Lyon, le Victoria de Psen contre le CSKA Moscou et enfin les Young Boys de Berne contre Manchester United.
Transfert.
À 35 ans, Manucho laissé libre cet été par le Rayo Vallecano. Il s'est engagé avec le club de 3e division espagnole de Cornella. On rappelle que l'attaquant international angolais est passé par Manchester United, Hull ou encore le Panathinaikos. Et puis prêté la saison dernière à Benevento où il a inscrit 8 buts en 11 matchs de Serie A, Cheikh Diabaté va découvrir un nouveau championnat, celui des Émirats Arabes Unis. L'attaquant international malien de 30 ans qui appartenait au club d'Osmaline Sport s'est engagé ce mardi avec l'Emirates Club. La durée de son contrat n'a pas été communiquée.
Merci Nicolas.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerrier, que vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La faim augmente dans le monde. En cause, les caprices du climat, les conflits armés, les troubles politiques. 5 agences des Nations Unies révèlent dans un rapport qu'en 2017, pour la 3e année, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a grimpé. Un chiffre qui avait pourtant tendance à reculer auparavant. Eddy Sango a joint Dominique Burgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Depuis l'an dernier, 2 ans en fait, nous observons une augmentation et que cette année, malheureusement, nous comptons 821 millions de personnes, soit une personne sur 9 dans le monde qui est en situation de sous-alimentation chronique. Alors à cela, nous avons identifié 3 causes principales qui sont tout d'abord la prévalence des conflits dans un certain nombre de pays qui a un impact important sur la propagation de l'insécurité alimentaire dans ces pays. La deuxième cause que nous avons identifiée est liée à la variabilité du climat et aux extrêmes climatiques. Et ensuite, la troisième cause, malheureusement, qui affecte un certain nombre de pays, est liée à la situation de crise économique que traverse un certain nombre de ces pays. Cette année, l'accent est mis dans le rapport sur la variabilité du climat et les extrêmes climatiques. Et ça nous préoccupe beaucoup, dans la mesure où nous voyons qu'en fait, nous avons un nombre croissant de pays qui sont confrontés à ces situations, avec, dans ces pays, un nombre croissant de personnes en sécurité alimentaire.
Et l'Afrique, dans tout cela, reste le continent le plus touché, mais dans quelle proportion ?
21% de la population, soit 256 millions de personnes, sont en situation de sous-alimentation chronique. C'est l'Afrique subsaharienne qui est la plus affectée, puisqu'on considère qu'entre une personne sur 4 et une personne sur 5 pourrait avoir souffert d'une privation d'alimentation chronique en 2017. C'est en particulier en Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, qui nous préoccupe, et c'est lié essentiellement à des situations de sécheresse, de hausse des prix et de ralentissement de la croissance, notamment du PIB par habitant dans ces pays. Il est clair que l'augmentation de la prévalence combinée à la croissance de la population a entraîné une augmentation qui est assez spectaculaire du nombre de personnes en sous-alimentation en Afrique, puisqu'en fait on est passé de 181 millions de personnes en 2010 à 222 millions en 2016, ce qui représente quand même une augmentation de près de 23% en 6 ans.
Faut-il faire pour renverser la tendance ?
Tout d'abord, il y a la question des conflits en Afrique qui affectent beaucoup de pays. Et l'an dernier, une organisation comme la FAO, avec ses partenaires, avait attiré l'attention sur la famine qui avait été déclarée au Sud-Soudan, mais aussi les risques de famine qui menaçaient d'autres pays, dont la Somalie et le nord-est du Nigeria. Donc tout d'abord, il est évident que la paix et la stabilité sont des éléments essentiels qui doivent être mis en place dans ces pays. Ensuite, par rapport effectivement à la question de la vérité, du climat et des extrêmes climatiques, il est absolument fondamental que nous renforcions ce qu'on appelle la résilience face au climat en combinant des actions d'adaptation au changement climatique avec des actions liées à la réduction du risque de catastrophe, à finalement diminuer l'exposition des agriculteurs et des petits producteurs au risque de catastrophe avec...
Dominique Burgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO à Rome.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Niger, les cours n'ont pas débuté dans les universités publiques 2 semaines après la rentrée. Le syndicat des enseignants-chercheurs observe un mouvement de grève depuis le 3 septembre pour réclamer notamment une amélioration des conditions de vie et de travail, mais également pour protester contre les réformes que le gouvernement entend engager. Reportage d'Abdoul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique à Niamey.
Pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants-chercheurs, le syndicat exige du gouvernement l'adoption d'une loi de programmation pour les 8 universités publiques du pays. Ce sera, selon le SNEX, la réponse à toutes les revendications de paiement d'arriérés de salaire et autres droits statutaires tels que les primes de recherche. Le deuxième point, objet de cette grève des enseignants-chercheurs, c'est la question de l'élection des recteurs des universités publiques que le gouvernement entend désormais suspendre et procédé par nomination pour les désigner. Yahuza Sadissou, ministre des enseignements supérieurs.
C'est vrai, nos universités sont autonomes, Mais malgré cette autonomie, le gouvernement a le devoir de mettre en œuvre la réforme qu'il pense être la meilleure pour le devenir de nos universités, pour la promotion de l'enseignement supérieur.
C'est l'option du gouvernement de revoir les dispositions des textes pour désormais nommer les recteurs par décret pris en Conseil des ministres. Donc, il n'y aura plus d'élection, en tout cas jusqu'à preuve de contraire.
Abandonner le système d'élection des recteurs des universités publiques ouvrira, selon le syndicat des enseignants-chercheurs, un boulevard à la politisation de ces institutions de recherche. Nabala Adare, secrétaire général du BEN-SNEX.
Pourquoi on veut le maintien du système électif du recteur? C'est pour des raisons scientifiques et des raisons administratives. Nous voulons être convaincus que ce recteur maîtrise les questions administratives, mais de façon universelle, il maîtrise les questions scientifiques. On a besoin de ça pour s'assurer que ce recteur va accompagner l'ensemble des anciens chercheurs qui ont une carrière universitaire.
Les étudiants victimes de ce bras de fer appelle bien évidemment à une résolution rapide du problème.
Nous sommes vraiment en tant qu'étudiants, parce que jusque-là, on n'a pas fini la deuxième année.
Comme tous les autres étudiants, nous sommes désolés vraiment et nous voulons que le gouvernement trouve, si possible, des mesures pour pouvoir reprendre le chemin de l'école.
Le bureau du syndicat national des enseignants-chercheurs du Niger prévoit de reconduire systématiquement cette grève tant que des réponses idoines ne sont pas apportées à leurs préoccupations. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
On vous emmène maintenant au Mozambique pour vous raconter l'histoire des rubis maudits de Ntoro. Pour les habitants de ce village, situé dans le nord du pays, la découverte de rubis en 2009 n'a engendré ni richesse ni prospérité. Bien au contraire, les pierres précieuses ont précipité le village dans une spirale de violence et de souffrance. Le récit de Salwa Jafari.
Il y a un peu moins d'une décennie, les habitants du village de Ntoro menaient une vie certes très modeste, mais paisible et sans histoire. Mais un jour, un bûcheron fit une découverte qui allait changer le visage de cette communauté à jamais. Des rubis, une montagne de rubis.
La vie ici était bien. Les gens avaient des fermes. Les gens avaient la possibilité de cultiver et de vendre les produits pour gagner de l'argent. Mais maintenant, nous sommes affamés.
La découverte s'est révélée être un cadeau empoisonné. Le village de Ntoro, situé au sommet des gisements de rubis, a été pris pour cible par des gangs. Ils ont brûlé des maisons et détruit les biens des villageois pour les forcer à déménager.
Le jour où la sécurité du MRM est arrivée dans notre village, ils avaient une grosse machine et ils ont détruit nos maisons. Ils nous ont pourchassés et ont également incendié nos maisons.
Sur la route du village, des dizaines de panneaux avertissent les villageois. Vous êtes dans la concession minière de MRM. Il est interdit de cultiver, de construire des maisons et de creuser les mines. Conformément à la loi mozambicaine, MRM a promis de reloger la population hors de sa concession. Mais le déménagement s'éternise. Christina Joaquim est la reine traditionnelle de Ntoro.
En ce qui concerne la réinstallation, le vrai problème est que le gouvernement nous mène en bateau. Ils parlent, mais ils n'agissent pas.
Déterminés à se défendre, une centaine de Mozambicains ont entamé une poursuite en Grande-Bretagne, alléguant de graves atteintes aux droits de l'homme. Beaucoup réclament leur indemnisation pour pouvoir s'installer ailleurs et se défaire à jamais de la malédiction des rubis de Ntoro.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et du rap à la politique, il n'y a parfois qu'un pas en République démocratique du Congo. Lexus Légal brigue un siège au Parlement. Le reportage de Chika Odwa, rendu par Arzuma Compaoré.
Ils ne parlent pas comme des politiciens et ils ne ressemblent pas non plus à ces derniers. Mais en réalité, ils le sont. L'un veut être un élu local, un autre, Lexus Légal, le plus célèbre du groupe, vise un poste plus élevé et incite les artistes de rap à s'impliquer dans la politique pour aider à résoudre les problèmes de la RDC.
des tripes entre eux, et ben c'est la vache qui rit.
Pendant 20 ans, Lexus Legal a fait carrière dans la musique engagée. Ses textes parlent du chômage des jeunes, dénoncent la corruption et d'autres problèmes sociaux. À présent, c'est vers le Parlement qu'il a tourné son regard, espérant y décrocher un siège.
Ce choix, c'est pas une nouvelle carrière, c'est presque une suite logique. Je fais partie, depuis que j'ai commencé cette musique, si tu me poses une question politique, je te réponds direct. Je ne dis jamais, comme beaucoup d'entre nous qui disaient « je suis apolitique ». Non, moi j'ai toujours été politique, c'est juste que je n'ai jamais été dans un parti politique, mais j'ai toujours été politique.
La politique et la musique sont étroitement liées en RDC. Certains musiciens locaux gagnent leur vie en soutenant des politiciens, ce que d'autres critiquent.
Ils prennent les musiciens pour des amuseurs, des gens qui doivent chanter pour eux après qu'ils aient fait des dialogues entre politiques. Et moi, j'ai refusé cela. Je l'ai refusé depuis le début. Je n'ai jamais chanté après les manifestations politiques. Mais je respecte les choix des uns et des autres.
Le rappeur populaire Bob Elvis a, selon les membres de sa famille, été récemment interpellé par les forces de sécurité après avoir condamné la corruption du parti au pouvoir dans une de ses chansons. Pour la musicienne Rihanna Prescott et ses amis, la politique est trop sale. Elle évite donc d'en parler dans sa musique.
La musique doit être une activité amusante, c'est pourquoi nous la faisons. C'est cela qu'on aime, c'est notre musique locale, pas de la musique sur la politique.
Le jour où j'ai su que j'allais vous voir là, au forum, 3 jours après, avant, je m'inscrivais chez Fourdin.
Lexus Legal et les autres rappeurs veulent démontrer le contraire, à savoir que la politique et la musique peuvent faire jonction pour le bien de la société.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Tout de suite.